BD parcourt la vallée. L'émission de la création d'entreprises sur la vallée de la Drôme et le Diois.
Sur les ondes de Radio Saint-Ferréol et Air Diois.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'IVDD Parcours la Vallée. Aujourd'hui, nous allons parler des projets d'entrepreneuriat collectif. C'est un sujet vaste, un sujet où il y a plein de choses à dire. Et l'entrepreneuriat collectif, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec deux bénévoles investis au sein de l'usine vivante, Céline Véron-Babin et Clovis Véron, et Laure Besson, salariée d'une association qui travaille sur l'usine vivante. Est-ce que c'est bien ça ?
Alors, c'est pas exactement ça, mais presque. En fait, c'est une association qui est à Valence, qui forme des animateurs de tiers-lieux, et en fait, ils me mettent à disposition de l'usine vivante.
Ben dans un premier temps, on va parler de l'usine vivante. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Voilà, parlez-nous de l'usine vivante. Peut-être parler des lieux déjà, où est-ce que c'est situé ?
Alors l'usine est située à la sortie de Cré en direction de Oust, sur l'avenue Adrien Fayol, au numéro 24.
Qu'est-ce que c'est que ce lieu ?
C'est un ancien site industriel, une usine qui est en train de vivre une nouvelle vie.
Donc c'était une usine auparavant déjà, c'était un lieu où il y avait une activité
industrielle, des fabrications d'engrenages qui allaient dans les bateaux, dans les avions, les moteurs d'avion, ce genre de choses, voilà, c'est la métallerie.
Et donc cette activité a cessé, cette entreprise a fermé ses portes ?
Alors la production a cessé en 2008 et l'entreprise a vraiment fermé en 2012.
Et donc l'usine vivante a ouvert ses portes en quelle année ? Ça date de quand ce projet ?
De novembre l'année dernière, donc le 16 novembre 2015, ça fait un tout petit peu plus de 6 mois.
D'accord, c'est parti de quoi ce projet alors ?
Vaste question.
De rencontre. De rencontre entre un artisan au départ qui lui cherchait un espace et puis qui connaissait ce propriétaire, hein, et qui a visité cette usine une fois et qui a flashé, et puis d'autres habitants de Cré qui cherchaient eux à construire un tiers-lieu qui avait ce projet de lieu collectif où on pourrait venir y travailler ou créer des dynamiques et des synergies entre les gens et les compétences. Et du coup, de cette rencontre, l'artisan a dit « Ah, mais moi, je connais un lieu, il y a une usine, venez voir. » Et ça a été le flash pour tout le monde après, quoi.
Et de l'entrepreneur qui a laissé son usine
à disposition. Bah, le propriétaire qui a accepté de rencontrer le collectif, hein, qui lui a présenté le projet, et il s'est dit que finalement, plutôt que de vendre son usine comme ça, ça lui plaisait bien aussi que cette usine se transforme en un lieu c'était un projet qui lui tenait à cœur aussi, hein, ce propriétaire.
D'accord.
Donc d'ailleurs, il fait partie prenante du projet, en fait, maintenant.
Et donc là, l'usine vivante est locataire de ces bâtiments.
Exactement. Alors, pour l'instant, on est locataire d'une partie des bâtiments, pas des bâtiments dans leur intégralité, puisqu'il y a une grande surface en tout. Au total, ça fait 1700 m2 et on loue aujourd'hui 200 m2.
Et vous avez parlé tout à l'heure de tiers-lieu. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu mieux ce que c'est qu'un tiers-lieu ?
Un tiers-lieu, c'est un espace de rencontre où certaines personnes ou des personnes qui veulent ne pas travailler chez elles ou ne pas travailler au bureau viennent dans un tiers-lieu pour faire leur activité.
Donc c'est travailler chacun dans son activité, mais en même temps en partageant un espace de travail, en partageant un lieu, quoi.
Oui, alors, c'est d'ailleurs pas que du travail. J'ai dit travail, mais en fait, c'est toute forme d'activité en dehors du lieu principal de l'activité et ou de chez soi.
En fait, il y a une partie travail qui est représentée par le coworking, c'est-à-dire que des structures viennent travailler dans cet endroit, mais comme il y a plusieurs structures, elles s'associent et ça crée une synergie. Mais il y a aussi autour de ce lieu de coworking plein d'autres activités qui peuvent se développer. C'est pour ça que c'est un tiers-lieu. C'est pas que un lieu de travail, mais c'est pas non plus que un lieu de loisirs. C'est un lieu tiers entre les deux.
Donc il y a une association qui porte ce projet d'usine vivante. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
C'est l'association L'Usine Vivante, voilà, loi 1901.
Quelles sont ses missions ?
Alors, on peut peut-être déjà lire les statuts qui ont des grands mots, mais qui résument assez bien. C'est que l'usine vivante a pour objet de favoriser la synergie entre les acteurs et actrices économiques, culturelles, sociales et les habitants du territoire. Mmh. Donc, ça résume tout parce qu'on veut vraiment encourager la mixité et faire converger les initiatives et dans un esprit de synergie.
Ok. Donc, mixité des publics aussi, des métiers et des compétences, hein, c'est
exactement.
Ça ? Exactement. Donc, tout ça dans le but de faire émerger aussi des dynamiques sur le territoire.
Exactement.
Tout à fait.
Tous les acteurs peuvent travailler ensemble, que ce soit des acteurs de l'entreprise, des entrepreneurs ou des associations de différents milieux.
Et même des particuliers.
Donc, et des particuliers.
C'est ça qui est... Voilà, de mélanger les trois publics, en fait.
Et comment ça fonctionne, le travail de cette association ?
Il y a des grandes commissions de travail thématiques. On a là une commission communication, une commission juridique et financière, une commission technique, une commission la vie du lieu. Voilà, chacune de ces commissions a des grandes lignes de conduite qu'elle suit. Et à l'intérieur de ça, donc chaque bénévole a un champ d'action et d'initiative personnelle assez fort. C'est ce qui est porté, et c'est presque militant hein, à l'intérieur de chaque commission, c'est de te dire, t'as envie d'en faire partie, t'as une initiative, surtout, propose-la, ose, fais. Et les autres sont là pour suivre soit la mise en œuvre d'une idée.
Voilà, donc tout le monde est libre de proposer. Et puis on travaille ensemble à la mise en place des objectifs de chaque commission. C'est ça.
Voilà.
Et comment ça fonctionne ? Donc les résidents de l'usine vivante, les entreprises ou associations qui résident à l'usine vivante, participent au même titre que les bénévoles à ces commissions de travail ?
Alors, juste pour reprendre les termes qu'on utilise.
Oui.
Résidence, ça désigne des personnes qui louent aujourd'hui des bureaux, en fait. Et à terme, ils loueront des espaces de travail au sens large.
D'accord.
Et les bénévoles, c'est les gens qui sont investis dans la structure associative pour faire avancer le projet.
Mmh.
Et donc, il y a des bénévoles qui sont devenus résidents parce qu'ils étaient bénévoles dans le projet et qui ont loué des lieux maintenant. Il y a des gens qui sont résidents parce qu'ils louent des lieux et qui ont décidé de devenir bénévoles parce qu'ils veulent participer au projet. Mais il y a des gens qui sont que bénévoles parce qu'eux, ils ont envie de participer. Et il y a d'autres personnes qui sont que résidents parce qu'ils ont juste besoin de locaux. Et en fait, on incite fortement les résidents à devenir bénévoles pour créer le projet parce qu'on est dans une initiative participative. Mais il n'y a aucune obligation.
Et combien il y a de résidents, de bénévoles ? Combien il y a de personnes en tout sur ce projet ?
Alors, côté résidents, ça représente 19 structures. En fait, c'est 23 personnes en activité, qu'elles soient en auto-entreprise, en micro. Enfin, voilà, il y a différents statuts, hein, associatifs, etc. Il y a même 2 stagiaires. Et côté bénévoles, il y a une quarantaine de personnes qui gravitent autour du projet. Et il y en a bien une bonne vingtaine très, très assidues. Après, ça dépend vraiment des temps forts, des moments, ça bouge, c'est vivant, quoi.
Et vous, du coup, quel est votre rôle dans ce projet en tant que bénévole et puis Laure en tant que plutôt salarié mis à disposition ? Clovis ?
Moi, je suis à la commission communication. On travaille sur le site, sur la newsletter, sur l'affichage, tous les moyens de communication. On essaye de rassembler et de faire un pôle des activités de l'usine et de les transmettre sur l'extérieur.
D'accord. Bah à propos, si des personnes veulent en apprendre plus sur le projet, est-ce qu'ils peuvent...
Ils peuvent nous retrouver sur notre site internet, l'usinevivante.org, ou sur Facebook, l'usine vivante.
Et Céline ?
Alors moi, je suis bénévole à la commission Vie du lieu. J'y suis depuis le mois d'octobre. En ce moment, je m'occupe avec une autre bénévole, avec Marie, de développer les extérieurs, les jardins, et d'impliquer les résidents et les bénévoles, et de mixer justement là, les publics, enfin, des habitants de l'extérieur. Hein, comme, voilà. Moi, je suis une bénévole habitante de Cray, non porteuse de projet ni rien, mais voilà, j'avais quand même dans l'idée d'apporter soit un projet de compostage de quartier, et y a de l'écho et de la résonance. Là, en ce moment, c'est en train de mûrir, et il y a au moins 5 résidents qui sont dans ce groupe jardin. Là, on est en train de créer un groupe jardin.
D'accord. Et Laure Besson ?
Alors moi, du coup, mon poste est d'être animatrice de l'usine vivante. Donc, pour synthétiser, le but de mon poste, c'est d'être au croisement de toutes les informations et de centraliser les informations et que quand quelqu'un a une question sur le projet, être en mesure de lui répondre et
organiser un petit peu les choses pour que ça tourne bien.
C'est ça.
Si un porteur de projet souhaite s'installer dans les locaux de l'usine vivante, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible? À qui faut-il s'adresser?
Ben, aujourd'hui, c'est à moi. Donc, via le site internet, on a une adresse mail qui est contact@usinevivante.org. Ou de passer, j'organise une fois par mois des visites pour les personnes qui sont curieuses le premier mercredi du mois à 14h. Et en fait, on se rencontre et si les personnes sont intéressées pour avoir un local, elles officialisent une demande. Et ensuite, on étudie sa demande, on va dire, en CA, mais en fait, on accepte tout le monde du moment où le projet respecte notre charte de valeur.
D'accord. Donc là, il y a des possibilités de louer des bureaux ou aussi mise à disposition d'espaces de travail.
Alors aujourd'hui, on a uniquement des bureaux, mais on est en train de se développer sur une deuxième phase qui devrait voir le jour, on espère, en janvier l'année prochaine, où on aurait des grandes salles en fait, de réunion ou de formation. Enfin, l'usage est à définir, mais on voudrait mettre à disposition des habitants et des entreprises de la région des salles de différentes tailles pour qu'ils puissent avoir des activités ponctuelles.
Et vous parliez justement des valeurs à partager. C'est quoi la charte? Quelles sont les valeurs que les personnes qui utilisent le lieu partagent?
Alors, parmi les grandes valeurs, on va retrouver des valeurs citoyennes qui favorisent l'initiative et le collectif. C'est le collectif qui est au centre. Ça a des valeurs laïques, de mixité, mixité sociale et mixité diverse. Convivialité. Échange en bienveillance. C'est vrai que c'est des choses qui sont assez essentielles pour les personnes de cette association. C'est travailler collectivement, c'est toujours... ça demande beaucoup, beaucoup de bienveillance et d'indulgence les uns vis-à-vis des autres, parce qu'un lieu qui vit comme ça, qui cherche des règles du jeu collectif, ça se fait pas... ça se fait pas tout seul, quoi. Des valeurs écologiques aussi. Ce choix d'usine... qui était industrialisé et en faire un nouveau lieu de vie, de travail, avec des enjeux de non-pollution, voire de dépollution, puisque c'est aussi ce genre d'enjeux qu'on a sur ce site.
Aussi de l'éducation, on essaye de développer des formations, des échanges de savoir. On va vers là, l'éducation populaire, des points de rencontre aussi. On envisage d'aller voir d'autres tiers-lieux, d'en accueillir chez nous. Tous ces aspects d'échange et de partage des connaissances.
Et il y a quand même une dernière valeur qui est importante à ajouter, c'est qu'on est apartisan du point de vue politique. Et on dit vraiment apartisan au sens où on soutient aucun parti politique, et ça c'est quelque chose qu'on porte parce que voilà, c'est une des valeurs.
Et qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui sont résidentes de l'usine vivante? Qu'est-ce qu'elles trouvent dans ce partage d'espace de travail?
Alors, je ne pourrais pas parler pour toutes, hein, parce que je crois que pour chaque résidence, c'est un peu différent. Pour ceux avec lesquels j'ai pu discuter, sortir de l'isolement. Je suis sur une activité individuelle, je travaille chez moi. Là, j'intègre un lieu collectif. Ça me donne d'autres idées, je partage mes doutes, je partage mes difficultés. Ça me donne une énergie, un élan supplémentaire aussi, quand on a des gens qui sont en train de développer leur entreprise. Et du coup, il y a des phases de découragement, mais le fait d'être... d'avoir son bureau au milieu des autres, et ben en fait, ça aide vachement à garder l'élan, à garder la dynamique nécessaire au développement de projet, par exemple.
Et du coup, il y a aussi beaucoup d'entraide. Enfin, maintenant que je suis dans le lieu aussi au quotidien, je me rends compte, moi, en tant que salarié, que des fois, j'ai des questions, on va dire, en compta. Et ben je me retourne vers mon voisin qui, je sais, connaît un peu plus que moi en compta, et je lui dis, est-ce que t'aurais pas une piste? Et en fait, c'est super de pouvoir... avoir quelqu'un qui a d'autres compétences que soi, et en fait on s'entraide et c'est vraiment chouette.
Il y a une mutualisation des connaissances.
C'est ça.
Connaissances et compétences. Réellement. Et pour des choses qui soient professionnelles ou même liées au projet. Le fait de faire un tiers-lieu, c'est un lieu de vie aussi. Hein, donc le fait que les résidents choisissent de venir travailler au tiers-lieu de l'usine vivante, c'est aussi parce que y a un espace de jardin, parce que je pense à d'autres résidents qui disent ce qui me plaît, c'est de pouvoir planter mes tomates et aller arroser mes tomates entre deux dossiers. Ça joue. C'est ce qui fait qu'ils ont choisi ce lieu-là aussi. Nous, on est des bénévoles, on a des questions techniques sur la dépollution des sols, là, et on a un résident qui vient d'arriver, qui a juste toutes les compétences, qui est capable de lire des documents que moi, personnellement, je suis incapable de lire. Donc voilà, on a ce va-et-vient, et c'est sa façon à lui de participer, en dehors de son activité professionnelle, mais voilà, ça crée une synergie globale, forte.
Et quand même une mutualisation aussi des outils.
Oui, des ressources.
C'est quand même... Enfin, on a une connexion Internet pour tout le monde, il y a une photocopieuse pour tout le monde. Enfin, forcément, en termes de coûts, ça joue aussi.
Oui, ouais, bien sûr.
C'est voué à évoluer, je pense. On pourra peut-être mettre davantage de ressources en partage.
Ça, c'est un des projets à développer. Justement, quels sont les projets à venir pour l'usine vivante?
Et ben, comme je le disais tout à l'heure, le premier projet, ça va être de créer des salles, donc de réunions ou de formations. On ne sait pas encore exactement lesquelles. Et justement, on va lancer dans les jours qui arrivent une enquête sur le territoire pour connaître les besoins du territoire, pour ensuite adapter notre offre. Et après, dans les projets à plus long terme, on a plein d'idées.
On a beaucoup d'espace à mettre en œuvre, à réhabiliter, et donc beaucoup de possibilités de projets. On voudrait faire un restaurant, faire une recyclerie, des ateliers partagés, il y a vraiment beaucoup de projets.
Un des principaux aussi, mais on va dire à échéance un tout petit peu plus lointaine, c'est un espace de coworking pour artisans. Donc l'idée, c'est de mutualiser le grand espace d'usine où il y avait les chaînes de production pour qu'on fasse des box pour les artisans, pour qu'eux puissent mutualiser aussi leurs outils et leur travail.
Leurs machines.
Leurs machines.
Eh bien, l'usine vivante, donc, c'est un lieu qui accueille les entreprises, les associations, les travailleurs indépendants, mais aussi des bénévoles qui veulent s'impliquer dans un projet citoyen. Voilà, toutes sortes de personnes qui gravitent autour du projet pour faire vivre, revivre ce lieu, cette usine, dans tous les domaines culturels, économiques et sociaux, pour enclencher des dynamiques de développement local, signe d'une économie en mutation.
Tout à fait.
Merci en tout cas pour ce témoignage.
Merci.
Et plein de bonnes choses.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
donc sur la thématique des lieux de travail collectif, l'entrepreneuriat collectif, et nous sommes maintenant à La Forge, un atelier de travail partagé à Cré, et je suis en compagnie d'Antoine Fargue. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui. Donc, moi, je suis issu d'une famille originaire de la Drôme, et je suis revenu dans le coin il y a environ 5 ans. Ça fait moi une quinzaine d'années que je suis dans le milieu de l'artisanat et de la création, de manière assez variée, mais en tout cas le design, le travail du bois, du métal, la photo, les arts plastiques. Et après pas mal de différents projets, là j'ai eu envie de revenir bien vers mes fondamentaux et le mobilier et les créations techniques.
Et donc tu as créé La Forge,
oui.
Cet atelier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'historique du projet ?
Oui, j'ai donc travaillé principalement seul pendant 12 à 14 ans. J'ai été auto-entrepreneur en arrivant dans la Drôme. J'ai ensuite été salarié dans différentes missions. Et puis j'ai voulu monter un projet artisanal, mais en collectif. Donc ça, c'était vraiment une chose importante pour moi parce que j'ai beaucoup travaillé seul sur des chantiers, dans des ateliers. Et il y a un moment de ma vie où je me suis dit que là, j'avais vraiment envie d'essayer de travailler avec d'autres personnes.
D'accord, donc en montant le projet de La Forge, voilà. Il y avait déjà une idée de collectif derrière.
Oui. Alors après, au tout début du projet, je comptais trouver des associés, un ou plusieurs associés. Et puis, c'était pas forcément le bon moment pour les personnes auxquelles je pensais, et comme moi c'était assez urgent de me mettre au boulot parce que déjà j'avais trouvé un premier lieu, parce que j'avais besoin de travailler aussi, et puis parce que j'avais envie de me mettre sérieusement à la création, j'ai monté l'entreprise tout seul. Donc j'ai monté une SARL, donc je suis le seul associé.
Et donc ça a été créé en quelle année, La Forge ?
En début 2015.
Je crois que vous avez déménagé depuis.
Oui, à l'installation, on était près de l'usine vivante, dans le secteur de Cré. Et puis, assez vite, au bout de 6 mois environ, on a déménagé pour un local bien plus grand, qui est dans la zone artisanale de Cré, en direction de la déchetterie.
Pourquoi ce nom, La Forge ?
C'est un nom qui me plaît depuis longtemps. Je m'étais dit que si un jour je créais un lieu, je l'appellerais La Forge. Voilà, ça me plaît, c'est un nom de lieu qui parle aussi d'une activité. La Forge, c'est une activité de transformation aussi. C'est une transformation qui implique des grandes quantités d'énergie. Je trouve que c'est un nom assez qui contient pas mal de force. Et puis mon nom, Fargue, c'est un nom d'origine du Sud-Ouest et qui veut dire La Forge. Donc c'était une manière de pas utiliser mon nom, mais un peu quand même.
Ouais, d'accord. Et du coup, l'idée du projet, elle est venue d'où ?
Déjà de l'observation de ce qui pouvait me manquer comme possibilité quand j'étais auto-entrepreneur, à savoir que on manipule pas forcément des gros volumes de matière et d'activité quand on est auto-entrepreneur, et c'est difficile de s'approvisionner en métal ou d'être bien installé. Donc avant d'avoir monté La Forge, moi j'ai travaillé 3 ans dans ma cave, donc qui était confortable, qui n'était pas très grande, mais où je travaillais déjà l'acier et le bois, où je faisais des menuiseries, des portes, des portails, des choses comme ça. Mais c'était vraiment pas très pratique. Et puis il fallait, quand je faisais du métal, je sortais tous mes outils de métal, et puis quand je passais au bois, il fallait tout nettoyer, tout repasser en mode bois, et puis inversement, comme ça. Donc c'était pas très efficace, mais ça m'a permis quand même d'être actif. Et puis je ne pouvais pas stocker les panneaux ou la matière qu'on trouve en acier et en bois assez facilement. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un endroit où je puisse m'approvisionner, prendre du bois et de l'acier au détail. Et puis où je puisse aussi échanger des techniques, parler. Donc j'avais imaginé un lieu collectif comme ça qui manquait. Donc quand je démarrais mon activité, je me suis dit j'ai profité de l'échelle de ma structure pour pouvoir accueillir des personnes de types de structures différentes, des auto-entrepreneurs, mais aussi d'autres, des ERL, des entreprises individuelles, des personnes qui auraient besoin de surface et d'équipement à une échelle professionnelle réelle, mais sans pâtir du fait que seul, c'est un peu difficile de s'approvisionner.
Et on en vient au fonctionnement du lieu.
Donc c'est un atelier partagé, c'est-à-dire que vous partagez l'espace.
Oui.
Et vous travaillez ensemble et vous avez chacun votre activité. Hein, c'est oui. ça. Toutes les personnes qui travaillent ici ont chacun leur activité.
C'est vrai que la forge, c'est un peu une expérience grandeur nature parce que comme dans mon activité, je suis seul et que je prends la responsabilité de louer un local beaucoup trop grand pour moi, je propose des mises à disposition d'espaces de travail, donc c'est des prestations de services, hein, c'est pas une location, à savoir que c'est pas dépendant du droit au bail, etc. C'est vraiment une prestation ponctuelle qui peut durer d'une journée à un mois ou plus. Après, effectivement, on a été assez vite victime de notre succès, donc c'est plein, c'est tout le temps plein, et il y a une liste d'attente qui est un peu longue, donc voilà. Et en plus, dans le fonctionnement du projet, ça a amené, c'était aussi une volonté de base, mais ça a amené des échanges au sein des différentes personnes qui occupent le lieu, qui partagent le lieu, et à tel point que ça évolue vers des collaborations régulières. Et donc, on est déjà en réflexion de faire évoluer le statut pour peut-être devenir associé ou créer des postes parce que l'activité le permet.
D'accord. Donc, du coup, quels sont les acteurs du lieu? Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Qu'est-ce qui est fabriqué à la forge?
Et ben, donc dès le début, dès le premier local qu'on a eu, il y a Gabriel Berthélémy et Stéphanie de Freitas qui se sont installées avec moi, donc qui ont chacun une activité d'auto-entrepreneur. Stéphanie fait plutôt des bijoux avec des objets de récupération, des engrenages, des choses comme ça. Et Gabriel, lui, travaille la ferronnerie. Il fait pas mal d'objets aussi décoratifs en matériaux de récupération, beaucoup en métal. Mais c'est aussi un bon ferronnier, un bon métallier. Et donc assez vite, on a travaillé ensemble sur les projets que je portais avec la forge, donc les projets de mobilier.
D'accord, donc justement, toi tu faisais du mobilier.
Voilà, dans la forge, à la base, donc mon activité, sachant que la forge c'est à la fois le lieu, mais c'est une activité secondaire, mais l'activité principale, c'est la création et la réalisation de mobilier, d'aménagement intérieur-extérieur, type garde-corps, escalier, choses comme ça. On travaille aussi sur des projets de petites maisons démontables. De cabanes en bois, en acier et en bois, de choses avec des toiles, pourquoi pas. Et puis, depuis récemment, sur des cycles. Donc, grâce aux compétences et aux envies de Gabriel, donc c'est aussi pour ça qu'on collabore régulièrement. Lui, il a fait pas mal de vélos modifiés, de choses comme ça. Et assez vite, on s'est mis à travailler ensemble sur ces projets. Et maintenant, la prestation et la vente des vélos va certainement passer par la forge. Donc on va élargir le domaine d'application. Donc principalement, la forge, c'est du mobilier, des aménagements et des cycles.
D'accord. Et on était tout à l'heure à l'usine vivante. Oui. Et donc, vous collaborez aussi avec l'association des vélos cargo, puisque vous fabriquez, je crois,
oui.
les vélos pour
l'association. Oui, on a fabriqué la première série de vélos pour l'association, ouais, les D'accord. vélos cargo.
Et puis, est-ce qu'il y a autre chose?
Donc, il y a d'autres protagonistes, puisqu'au début, donc, je parlais de Stéphanie et Gab parce qu'ils étaient là au début, mais assez vite, il y a Mathias qui nous a rejoint. Donc, lui, plus dans des compétences bois, et très tôt aussi, on a collaboré activement pour les créations de la forge, donc là, beaucoup pour le mobilier avec Mathias. Et donc, il y a d'autres personnes qui sont là régulièrement, comme Olivier, qui lui est plutôt charpentier et menuisier, et puis Antoine qui nous a rejoint récemment, là, il y a un mois ou deux, et qui conçoit et installe des cuisines. Donc c'est vrai qu'on a un panel d'offres dans le milieu artisanal qui est varié, puisqu'on mmh. peut faire des choses en métal qui peuvent être très techniques, comme des vélos électrifiés, des éléments mécaniques même, du mobilier, de la création. Je vends des prestations de conseils en aménagement intérieur ou en design. Donc c'est vrai que quand on a une idée pour l'aménagement ou pour la mobilité, il y a beaucoup de possibilités ici.
Qui peut venir vous voir? Des particuliers, des professionnels? Tout le monde peut venir vous voir? Parce qu'il y a une activité de production, et puis après, il y a aussi toute une partie de service pour les professionnels.
Oui, c'est ce qui se développe beaucoup en ce moment. On a déjà, depuis le début, fait pas mal d'aménagements pour des locaux professionnels, donc des râteliers pour ranger de la matière, des casiers, des choses comme ça, des choses qui sont à mi-chemin entre les aménagements professionnels et le design, sachant que c'est pas parce que c'est fonctionnel que c'est moche. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont vachement appréciées, parce que même si c'est dans un atelier ou dans un local professionnel, bah, ça peut faire quelque chose d'un peu classe, quoi. Mm-hmm. Et on travaille, que ce soit pour l'habitation, donc pour le logement, ou pour les locaux professionnels, on travaille beaucoup quand même des matériaux qui sont bruts. L'acier peut rester de la couleur de l'acier, et le bois va être jamais peint. Donc c'est vrai qu'on travaille aussi pour des personnes qui travaillent dans l'aménagement intérieur, on peut faire du prototypage pour des designers. Donc c'est vrai qu'il y a une offre qui est très large, d'autant plus que c'est toujours une réponse créative, donc qui va vraiment être adaptée, soit simplement parce que c'est sur mesure, mais aussi parce qu'on a une idée plus ou moins précise du besoin qu'on a en tant qu'acheteur potentiel. Et nous, on va souvent avoir un conseil actif sur... on peut dessiner des enseignes, créer une image pour une entreprise qui va s'installer et qui voudrait avoir quelque chose qui serait qualitatif sans pour autant... être dans la réponse industrielle habituelle ou quand il y a de la pause, etc. C'est des choses qui peuvent être souvent très onéreuses. Là, on est quand même sur une démarche locale et on essaye de renouer un petit peu avec des techniques modernes, mais avec la manière de travailler que pouvait avoir l'artisan local il y a une cinquantaine d'années, où quand on avait besoin d'une chaise ou de réparer un équipement de tracteur ou d'installer une enseigne, on allait voir l'artisan du coin, soit le menuisier, soit le ferronnier, il y avait une réponse adaptée un peu à tout. Donc, ouais. On sort un petit peu de la réponse générale et de la grande spécialisation. C'est vrai que c'est très large.
Et justement, on y vient un peu, quelles sont les valeurs du lieu ? Sur quoi vous basez vos relations, vos méthodologies de travail, l'organisation du lieu?
C'est vrai que on a, au sein des personnes qui travaillent à la forge, on a fraternisé assez vite parce que on est assez d'accord sur des valeurs de qualité du travail déjà dans l'offre. Une production qui va être robuste, durable. Et où à chaque fois on va réfléchir. Il y a vraiment cette question sans prétention, mais une question d'intelligence, de vraiment de se poser des questions qui peuvent aller assez loin sur pourquoi utiliser tel matériau, pourquoi s'équiper, dans quel sens, et plutôt une réponse orientée vers la sobriété. Pas forcément mettre en œuvre des techniques très complexes et très coûteuses pour avoir une réponse qui va être simple. Donc on est équipé plutôt... C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses en ferronnerie, en bois, on a quand même des machines, mais on n'est pas à la pointe de la technologie et on défend un petit peu ça. On essaye de faire les choses simplement et de remettre un peu en question les idées reçues sur qu'est-ce que doit être un escalier, qu'est-ce que doit être une porte. Vraiment se questionner sur les fondements de l'artisanat, et ce qui fait que même pour un petit tabouret, on va prendre ça comme un projet. Donc, il va y avoir plusieurs dessins, il y a toujours des vues 3D sur tout ce qu'on fait et des échanges réguliers, permanents entre le demandeur et nous quoi, qui produisons. Donc il y a des valeurs aussi humaines qui sont assez fortes. On tient à pas faire des semaines de 70 heures comme c'est assez courant dans l'artisanat. Nous, c'est vrai qu'on essaye de conserver, de développer aussi une vie de famille et puis une vie associative autour. D'être actif sur différents postes. Et puis on est aussi assez vigilant sur le plan de l'énergie et de l'écologie. Par exemple, on est chez Enercop, donc on tient à ce que si nos outils consomment pas mal d'électricité, que ce soit pas produit par des centrales nucléaires. On a des véhicules, mais on s'en sert pas trop. On fait la plupart de nos trajets à vélo, même pour aller chercher des matériaux. Donc on a des vélos cargo, des choses comme ça, il y a des possibilités. Et puis on partage nos repas le midi. Enfin, ça passe par des choses assez simples. Le plus simple, c'est de venir nous rencontrer et d'en parler. C'est vrai qu'on a une démarche qui est quand même assez originale, qui est sobre.
Il y a une logique dans tout ça.
Oui, mais c'est vrai qu'on essaie d'aborder posément des choses dont on se permet plus trop. Enfin, on se permet plus trop de se questionner sur ces choses-là, sur la manière de faire les choses, sur quel temps on doit prendre. Et c'est vrai que nous, on aime bien prendre le temps de parler, de fabriquer, de mettre vraiment une grande qualité et beaucoup d'amour dans ce qu'on fait.
Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler ensemble, de partager ce lieu ?
C'est vrai qu'il y avait des aspects que j'envisageais déjà simplement comme la compagnie, pas être tout seul dans son atelier. Et donc c'est plus animé, c'est plus sympa. Après, ben justement, ça très rapidement, il y a une dynamique d'évolution qui s'est mise en place. Et la variété des projets et la manière d'y répondre s'enrichit vraiment de semaine en semaine. Tout le temps, il y a un processus qui est très, 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 très évolué et très dynamique, en fait.
Ouais, il y a une émulation du groupe dans les nouveaux projets, dans la façon de travailler ensemble.
Travailler en collectif, c'est quelque chose à la fois que je recherchais, mais aussi une richesse que je ne soupçonnais pas. C'est vraiment des manières de travailler que je n'envisageais pas, plein de petits aspects techniques, des astuces, mais aussi parfois des grandes remises en question sur mais pourquoi est-ce qu'on est là. Et c'est vrai que ça se ressemble souvent en café philo le midi, quoi, parce qu'on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on voudrait le faire. Et donc, comment faire évoluer la structure, est-ce qu'on peut accueillir plus de monde ou pas, dans quel contexte on a envie de travailler, et puis se compléter aussi sur la possibilité parfois d'avoir besoin de lever un peu le pied et que les autres puissent reprendre un petit peu les affaires en main. Ouais. Donc on va forcément, enfin pas forcément, mais en tout cas, on s'oriente à l'avenir vers une mutualisation de la structure, et donc on pense qu'au moins Gabriel et ou Mathias vont rentrer dans la structure de la forge, donc sur quelle formule on ne sait pas encore, mais c'est sûr que ça va se faire parce que maintenant on travaille très régulièrement ensemble sur les projets.
Oui, donc au-delà de la mutualisation du matériel ou des machines ou de passer des commandes en même temps, où il y a aussi ce partage d'expérience, de conseils, qui est presque la chose la plus importante, c'est le partage humain.
Ce partage de vie, en fait. Je ne sais pas trop comment dire, mais ça va au-delà que d'être collègue ou de travailler à côté. Il y a quelque chose quand même de fort, une amitié dans le travail, et puis la sensation j'irais jusqu'à dire de transformer les choses, d'être vraiment actif dans notre communauté proche, parce que c'est vrai qu'on travaille très localement, à 95%, c'est un rayon de 15 km. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses se passent bien, ou même peut-être mieux, pour réfléchir sur la mobilité, produire des équipements qui permettent d'éviter de prendre des voitures, donc comme les vélos cargo, de faire des meubles qui vont être très durables, qu'on va pouvoir conserver, qu'on va pouvoir transmettre ou revendre, ou entretenir, sortir un peu vraiment de l'offre toute faite, et de travailler beaucoup justement sur la question de la productivité, savoir que on peut pas passer 50 heures sur tous les projets, donc on essaye de mettre en place des méthodes qui sont rapides dans l'exécution pour avoir une offre rationnelle et accessible à une clientèle pas forcément fortunée.
Et quels sont les projets à venir pour la Forge ?
Donc nos projets, ce sera dans les semaines à venir de développer la communication autour de la fabrication des vélos, parce que au début on a fabriqué quelques pièces sur commande. Là on a essayé de créer des modèles, donc on a créé 4 modèles de cadre et on a fait une grille de tarifs, comme ça ça permet de voir mieux où on va. On a travaillé aussi sur l'électrification des modèles de vélo, donc c'est beaucoup des parties techniques. Et pour la partie mobilier, on s'est lancé activement pour rentrer en contact avec les professionnels de l'aménagement intérieur, du design, les architectes d'intérieur, les architectes du secteur, pour être connus, puisque pour l'instant on a fonctionné exclusivement sur le bouche à oreille. Et ça fonctionnait bien jusque-là, mais maintenant on travaille à plusieurs, on a une plus grosse force de production, et donc on a envie d'aller plus loin, quoi, dans une offre de qualité. Donc d'aller voir les personnes que ça intéresse.
On vous souhaite plein de réussite à la Forge, plein de nouveaux projets, plein d'activités, et puis merci pour ce temps de témoignage, Antoine.
Merci,
à bientôt.
C'était un plaisir, à très bientôt.
À bientôt, merci. Fortune is a fickle friend, here today and then gone again. A good time girl, when it hurts, is nowhere to be found. Ha, 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 she's laughing in your face when you think that you've got it made. Be patient with your life now, careful with your pride. Hold tight, this could be a wild ride. It could be a late night, and it's under the dark. And who's gonna be the lucky one? Comme chaque mois, l'émission IVDD Parcours la Vallée donne la parole aux chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antoine Laurent qui a créé l'entreprise AL Agencement. On est toujours à La Forge. Antoine s'est installé il y a peu de temps ici. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline.
Ben dans un premier temps, je vais te demander de te présenter et puis de présenter ton activité.
Oui, alors je m'appelle Antoine Laurent. J'ai créé l'entreprise AL Agencement en janvier 2015, donc il y a un an et demi. Et je fais tout type d'aménagement intérieur, donc cuisine, espace rangement, bureau, bibliothèque, donc tout ce qui va toucher au mobilier.
Donc concrètement, comment ça se passe dans ta démarche pour un projet d'aménagement d'intérieur? Comment tu travailles?
Alors, je conçois et réalise des projets sur mesure. Pour moi, les maîtres mots sont personnalisés et adaptés. Ça se déroule avec un premier rendez-vous, avec prise de mesure quand c'est une pièce existante ou on travaille sur plan si c'est une construction. Donc, l'idée, c'est de découvrir les besoins, attentes et envies des clients, leurs besoins fonctionnels, leurs envies esthétiques, les contraintes techniques liées aux dimensions, les contraintes d'espace liées à l'endroit où le projet va prendre place, et également les contraintes budgétaires liées au budget disponible de mes clients pour ce projet-là. Donc ce premier rendez-vous pour aboutir à un projet vraiment personnalisé prend un petit peu de temps, ça demande au client de me consacrer 2 à 3 heures pour être au plus juste dès la première étude. Ensuite, je fais l'étude du projet, donc des plans d'aménagement qui sont réalisés à la main pour une vue de dessus et des perspectives 3D à l'ordinateur pour une meilleure visualisation du projet final, pour mieux se projeter dans l'espace de la future réalisation, accompagné du devis qui correspond à l'étude. Ensuite, je revois mes clients afin de leur présenter l'ensemble de cette étude. Une fois cette étude présentée à mes clients, on apporte très souvent quelques modifications afin d'aboutir à un projet final. Projet final qu'ensuite je mets en fabrication et que je finis par installer moi-même. Donc c'est un interlocuteur de A à Z pour tous les projets.
Quelles sont les réalisations possibles? Donc tu parlais de cuisine, d'espace de rangement. C'est vraiment tous les aménagements dans toute la maison?
Oui, tout à fait. Donc ça concerne essentiellement tout ce qui touche au mobilier, donc ça peut être cuisine, bibliothèque, dressing, bureau, chambre à coucher, vraiment tout type de mobilier intérieur pour les particuliers, et également banque d'accueil, espace de vente, bureau pour des professionnels.
D'accord, donc tes clients sont autant des particuliers que des professionnels?
Oui, alors pour l'instant en majorité quand même de clients particuliers, mais j'ai le souhait de développer mon activité auprès des professionnels.
Et tu travailles avec tout type de matériaux, dans tous les styles?
Oui, alors ça va dépendre donc totalement des goûts et envies de mes clients. Ça peut être en bois massif, pierre naturelle pour des plans de travail, en façade, mobilier, donc soit bois, soit des matériaux type mélaminé, stratifié, dans des ambiances modernes ou traditionnelles, vraiment totalement selon les choix esthétiques de mes clients.
Et la fabrication, elle se fait où? Qui sont les fabricants des meubles installés?
Alors, en ce qui concerne les cuisines, je travaille avec un fabricant qui est situé au sud de Bordeaux, ce qui peut paraître pas très local, mais qui, pour de la cuisine, est assez local, car il y a très peu de fabrications qui sont 100% françaises à l'heure d'aujourd'hui, et c'est le cas de ce fabricant qui est Sagne Cuisine, voilà. Donc qui me fabrique aussi bien tous les caissons que toutes les façades de meubles que j'installe pour ce qui est cuisine. Ensuite, pour tout autre type de mobilier, et essentiellement quand je vais travailler le bois, c'est une fabrication qui est faite par moi-même ou d'autres partenaires locaux, avec des essences les plus locales possibles et si possible toujours une démarche avec le moins de transport sur les matériaux, des finitions notamment sur le bois en huile dure naturelle et écologique avec une optique avec le moins d'impact environnemental sur les matériaux de construction et le moins de dégagement nocif au sein de l'habitat.
Qu'est-ce que ça veut dire une conception sur mesure? C'est-à-dire que si quelqu'un veut un meuble complètement créé de toutes pièces, tu es capable de le concevoir et de le fabriquer?
Oui, bien entendu, dans la mesure du possible, mais les nouveaux challenges sont toujours les bienvenus. L'idée est de bien cerner les envies et attentes des clients et d'apporter un conseil aussi bien technique qu'esthétique pour aboutir au projet qui leur correspond. Mais on peut faire des créations uniques, totalement sur mesure, en fonction des envies des clients.
Mmh. Alors, question un petit peu plus personnelle, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette entreprise? Comment est né ce projet?
Très bonne question. Alors, j'ai dans mon parcours travaillé plus de 10 ans en PME, toujours autour de l'aménagement intérieur, des matériaux de décoration intérieure, avec très peu de monde, c'est-à-dire soit juste mes patrons et moi, ou un à deux collègues maximum. Donc j'ai toujours été investi dans la vie de l'entreprise, aussi bien en conception que sur du chantier également, parce que j'ai toujours apprécié cette complémentarité entre création esthétique et technique de réalisation jusqu'au bout du projet. L'envie de créer cette entreprise, c'était justement pour pouvoir proposer des projets de A à Z qui soient conçus par moi et par mes clients, bien entendu, et de pouvoir pousser ces projets jusqu'à la réalisation finale chez le client et ne plus travailler que sur de la conception ou que sur du chantier et d'être maître, je dirais, de mon activité. Et pour moi, la meilleure solution pour ça était de me mettre à mon compte.
On fait une pause musicale avec Synapson All In You. I talk for a reason, sing for a reason, some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason, look around, they ain't much time to say what you wanna say, do what you wanna do, live your life all the way, hey.
All in. pour la deuxième partie de l'interview avec Antoine Laurent qui a créé l'entreprise AL Agencement.
Donc tu as récemment installé ton bureau au sein de La Forge. On a rencontré tout à l'heure Antoine Fargue qui a créé le projet. Pour quelles raisons tu t'es installé ici ? Puisqu'on parle dans cette émission hein, de la thématique, c'est les projets collectifs, d'entrepreneuriat collectif. Voilà, donc tu as récemment installé ton bureau au sein de La Forge. Pour quelles raisons ?
C'est en partie dit dans la question, c'est-à-dire qu'effectivement, entrepreneuriat collectif, c'est ce qui m'a attiré. J'ai rencontré Antoine il y a à peu près un an. Ça a été une rencontre très intéressante et également toutes les autres personnes présentes à La Forge, je les ai rencontrées au cours de l'année dernière. J'ai senti une réelle dynamique de groupe et une complémentarité des compétences et connaissances entre chaque, un partage des savoir-faire qui m'a beaucoup attiré. Et également pour ne plus être seul dans mon activité, à savoir que j'étais jusqu'à maintenant installé à mon domicile, mon bureau, et j'avais besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle dynamique, et ce lieu me paraissait être le plus opportun pour répondre à ce besoin-là.
D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de travailler ici ?
Alors comme je l'ai souligné, effectivement, il y a vraiment une complémentarité de compétences ici. Certaines personnes sont spécialisées dans le métal, dans des petits mécanismes, d'autres sont spécialisées dans le travail du bois. Et on s'enrichit les uns les autres de nos parcours, de nos expériences. Ça permet de travailler d'une part chacun de son côté et également en commun sur des projets mutualisés. Il y a une mutualisation également de certains outillages. Et un lieu de travail collectif avec une belle dynamique qui est vraiment, vraiment agréable.
Donc ça permet une mutualisation du matériel, de l'outillage, mais c'est surtout des relations humaines en fait, hein. C'est là-dessus que ça repose beaucoup. C'est des nouvelles collaborations aussi possibles, c'est un partage humain.
Complètement, oui. C'est ce que j'abordais en partie en disant que ça a été des rencontres très agréables pour moi l'année dernière. J'ai vraiment ressenti des échanges extrêmement enrichissants entre les uns et les autres par la variété des profils justement qui sont là et ces moments de convivialité qu'on peut avoir pendant des pauses ou quand on travaille sur des projets ensemble aboutissent à des créations où chacun y met du sien. Effectivement, des belles collaborations. Je suis actuellement, pour ma part, en train de travailler sur une ligne de meubles de cuisine que je souhaite commercialiser d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, qui sera un pur produit des compétences des uns et des autres ici et qui seront 100% fabriqués à La Forge.
Beau projet à venir alors.
Oui.
Ok. Et du coup... souvent je pose cette question, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des porteurs de projets qui souhaiteraient s'installer en artisanat dans des domaines d'activité de l'artisanat?
Alors je ne sais pas si je serais le mieux placé pour apporter des conseils, mais de mon expérience, ce qui est important, c'est une bonne préparation en amont, pas vouloir démarrer trop vite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en amont. Bien préparer son projet, bien cibler son activité que l'on souhaite faire, savoir comment on veut travailler, avec qui, et si c'est adapté à la personne, effectivement, intégrer un lieu de production et de travail collectif peut être très enrichissant. Pour ma part, c'était pas ce que je souhaitais au tout début, il me fallait un temps seul chez moi, mais effectivement, c'est très vite enrichissant. Bon, je le répète beaucoup, mais c'est vrai. Et ça apporte un nouveau souffle et ça permet vraiment de donner une belle dynamique.
Ouais, tu l'as vécu comme ça, en tout cas.
Oui. Voilà. Et de ne pas hésiter non plus à faire appel à des structures qui accompagnent, comme je l'ai fait avec IVDD. J'en profite justement pour remercier IVDD pour son accompagnement avant la création et également en termes de suivi. Pour quelqu'un qui souhaite travailler seul, c'est un soutien et un appui qui est vraiment intéressant.
Toi, tu as eu un parrainage.
Oui, c'est exact. J'ai mon parrain qui est Cyril Fournier de la société Dromadaire, qui m'a accompagné depuis la création et qui m'accompagne encore Et encore plus aujourd'hui, dans la mesure où La Forge et Dromadaire sont voisins comme entreprise, donc on se voit encore plus régulièrement.
D'accord. Si des personnes qui écoutent l'émission souhaitent plus d'informations sur ton activité, est-ce qu'il y a un site internet à visiter, peut-être une page Facebook ?
Oui, effectivement. Alors, il y a mon site internet qui est le www.al-6agencement.fr et également ma page Facebook AL Agencement.
D'accord, super. Merci Antoine pour ce témoignage dans l'émission IVDD Parcours la Vallée. On te souhaite beaucoup de réussite dans ton activité et puis à bientôt.
À bientôt et merci à toi Caroline.
Merci.
Retrouvez l'émission sur le Facebook d'Initiative Vallée de la Drôme d'Iwa ou en podcast sur le site de RDIWA, www.rdwa.fr ou sur le site de Radio Saint-Ferréol, www.radiosaintfé.com.